On va s'intéresser à l'impact qu'ont en Europe les élections législatives françaises et britanniques sur les communautés juives d'Europe. On retrouve pour nous en parler Juan Caldes Rodríguez, il est au micro, et de Lucie Gilson.
Bonjour Juan Caldes Rodríguez.
Bonjour.
Vous êtes chargé d'affaires européennes à l'European Jewish Association. Donc les Français se sont prononcés ce week-end au terme de ce second tour des élections législatives qui ont été extrêmement observées à travers l'Europe et également scrutées avec attention par la communauté juive européenne et de France également. Le nouveau Parti populaire sort gagnant de ces élections. Qu'est-ce que ça veut dire pour la communauté juive française ?
Merci pour l'invitation. D'abord, je voudrais commencer en français par dire que la situation politique en France est vraiment préoccupante. La polarisation et la division fracturent les tissus sociaux d'une grande nation européenne et je suis préoccupé de voir que la communauté juive française a de moins en moins d'avenir avec la montée alarmante de l'antisémitisme et de l'antisionisme, tant à l'extrême droite comme à l'extrême gauche. Et j'espère seulement que le prochain premier ministre français gouvernera par et pour tous, et surtout pour garantir la protection et la défense de la communauté juive française.
That being said, avec les résultats que nous venons de voir en France, je dois dire que beaucoup de gens se félicitent et ils pensent que c'est un excellent résultat parce qu'ils ont pu établir un cordon sanitaire autour du Rassemblement national, ce qui est très bien. Et beaucoup de gens l'ont dit, y compris au sein de la communauté juive. Plusieurs organisations juives en France, y compris le CRIF et le Consistoire, avaient appelé pendant cette campagne de ne pas donner son vote aux extrêmes, ni RN, ni LFI.
From Rassemblement National et la France Insoumise.
Aujourd'hui, nous sommes tous très surpris du résultat de la gauche à ces élections. Nous attendions tous à ce que le Rassemblement national remporte largement ces élections et à ce qu'il obtienne une majorité absolue à l'Assemblée, comme le prévoyaient Jordan Bardella et Marine Le Pen. Résultat, nous voyons que le nouveau Front populaire a récolté bien des votes à travers le pays, en particulier sous la conduite de Jean-Luc Mélenchon. Moi-même, je dois avouer que je ne pensais pas que le nouveau Front populaire ferait un tel score, mais je pense qu'il faut pondérer cet enthousiasme, car à mon avis, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la communauté juive de France. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour la communauté juive en Europe en général, de voir qu'en fin de compte, bien sûr, nous avons pu établir un cordon sanitaire contre l'extrême droite, mais en fin de compte, c'est l'extrême gauche qui a remporté ces élections. Et nous savons que beaucoup dans leur rang prônent des positions très radicales, notamment au nom de l'antisionisme, qui n'est autre qu'une forme nouvelle d'antisémitisme. Nous avons pu le voir avec de nombreuses personnes brandissant le drapeau palestinien pendant les meetings politiques et les affirmations répétées que l'une des premières mesures qu'ils appliqueront sera la création unilatérale d'un État palestinien. La situation reste donc très dangereuse pour la communauté juive de France. Je pense par exemple dans le cas où les partis ne parviennent pas à s'aligner pour obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. En cas donc d'impasse politique, il sera extrêmement difficile de former un gouvernement. L'Assemblée serait fragmentée et divisée. Cela étant dit, je reste confiant car je crois que la France est une grande nation et j'espère sincèrement que des hommes d'État de qualité avec des positions modérées comme Raphaël Glucksmann seront capables de sortir de l'eau proposée comme Premier ministre. Est-ce que les organisations juives de France ont déjà réagi face à ces résultats et pouvez-vous nous en dire plus ? Comme je l'ai dit, certaines des déclarations que nous avons vues, en particulier de la part des organisations que j'ai mentionnées comme le CRIF et le Consistoire, qui défendent la vie juive et représentent les communautés juives dans toute la France, indiquent qu'elles ne sont pas particulièrement heureuses. En fait, elles ont publié une déclaration hier matin disant qu'elles étaient très inquiètes par ce vote et que les gens ne devaient pas, comme je l'ai dit auparavant, se réjouir de résultats. Ce n'est pas parce que nous avons été, nous le peuple français, capables d'arrêter Jordan Bardella et Marine Le Pen. Les gens ne devraient pas se réjouir de voir les partis d'extrême gauche au pouvoir, car ce sont ceux qui sont les responsables de la majeure partie des débordements lors de manifestations. Hier, par exemple, nous avons pu voir dans l'une des vidéos que j'ai vues récemment ce matin sur les réseaux sociaux, une faction d'extrême gauche qui assaillait et pillait un McDonald's, vandalisait la façade avec des inscriptions « Free Gaza, Free Palestine ». Et ça, il me semble que ça n'a pas sa place dans une élection concernant la gouvernance d'une grande nation comme la France, et c'est indigne du peuple français. C'est possible que ces actions aient été directement commanditées par des dirigeants de l'extrême gauche, directement ou indirectement à travers leur rhétorique. Donc, comme je l'ai déjà dit, lorsque les Juifs sont témoins de ce genre de dérapage, il y a une peur. Le grand rabbin de Paris a même appelé les jeunes générations de Juifs à quitter la France, à faire leur alia, car il n'y avait selon lui pas d'avenir pour les Juifs en France et personne ne devrait s'en réjouir.
Openly saying you have to make aliyah to the younger generations, I encourage you, I tell you, there's no future in France. Mm-mm. Then I think it's an alarming sign, and we should be very, very, very worried about it.
Donc vous dites que les résultats de ces élections ne sont pas une bonne nouvelle pour les Juifs français, et est-elle une bonne nouvelle pour les Juifs d'Europe?
Non, pas du tout. Les pays de l'Union européenne ne sont pas homogènes. Ils sont gouvernés par différentes réalités politiques. Mais pour moi, ce qui se passe en France est un marqueur fort de la direction que peut prendre l'Union européenne, car c'est un grand pays, un des pays fondateurs qui a beaucoup de poids dans les prises de décision européennes. Et c'est aussi le pays européen avec la plus grande communauté juive de diaspora d'Europe, avec près d'un demi-million de juifs. Et le fait que nous voyons des élections aussi polarisées affaiblit considérablement le pouvoir d'Emmanuel Macron. À mon avis, c'est ce sur quoi nous devrions nous concentrer. La convocation d'élections anticipées par Emmanuel Macron il y a 3 semaines, avec l'énorme défaite aux élections européennes, n'est pas une bonne chose pour lui. Le fait qu'il ait été le parti, le fait qu'il ait eu son propre Premier ministre avec Gabriel Attal n'est pas un bon point. Maintenant, le fait qu'il soit à court, ce sera un parti très décisif en termes de qui il donnera ses votes à la fin de la journée. L'appel à des élections anticipées n'était pas, je pense, que c'était un signe de suicide politique, si vous voulez mon avis. Et je pense que cela me rappelle à bien des égards David Cameron lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni et qu'il a appelé au Brexit. En tant qu'organisation juive, nous représentons des centaines de communautés dans toute l'Europe et nous ne réjouissons pas de la montée de l'extrême gauche et de l'extrême droite, mais dans ce cas, c'est l'extrême gauche qui l'emporte et nous espérons sincèrement que le futur Premier ministre de la France ne le sera pas à l'avenir.
Et
en ce qui concerne les politiques qui vont être mises en place concrètement en France, je pense que la première chose que nous devrions observer, c'est la relation entre la France et les autres États membres, en particulier l'Allemagne. Les deux pays ont toujours été très proches.
Leur
relation pourrait se détériorer, même si, comme Emmanuel Macron sera encore le président pour les 3 prochaines années et donc toujours en charge de la politique étrangère française. Ce qui ne veut pas dire qu'il sera le seul au gouvernail. Le Premier ministre français a également beaucoup de pouvoir en vertu de la Constitution. On l'a vu par exemple dans la gestion de la période troublée du Covid-19. En cas où des circonstances similaires seraient l'apanage du Premier ministre, et si celui-ci est d'une couleur politique plus à gauche, comme c'est le cas aujourd'hui, la cohabitation pourrait se révéler très difficile. Il y aura beaucoup de tensions, surtout s'ils viennent de l'extrême gauche, qui fait partie de ce nouveau Front populaire. Nous verrons potentiellement un changement sur plusieurs dossiers de politique étrangère, tels que la direction de l'OTAN ou la manière d'envisager la guerre en Ukraine. On sait déjà que certains élus d'extrême gauche sont favorables à Vladimir Poutine. Il y aura également un impact sur les relations avec les États-Unis et le lien transatlantique a toujours été très important. Cela a permis par exemple à l'Occident de rester uni au cours des 60 dernières années. Il va certainement y avoir un impact économique dans un pays très développé comme la France. On va pouvoir par exemple voir une fuite des capitaux pour la première fois. Les investissements n'afflueront et peut-être même qu'il y aura une baisse des flux entrants d'investissement. Car je pense que les propositions économiques du nouveau Fonds populaire sont très irréalistes et qu'en fin de compte, ce sont les gens, en particulier les plus pauvres, qui souffriront le plus de ce changement de cap. Cela reste à voir. Ce n'est pas une bonne nouvelle de voir l'extrême gauche au pouvoir et cela pourrait également avoir des conséquences sur les prochaines élections, car on pourrait observer un retour de l'extrême droite dans 2 ans. Si c'est le cas, tout est possible. On ne sait pas vraiment comment cela pourrait influer les politiques françaises qui seront ses nouveaux alliés. Mais ce ne sera pas nécessairement un politicien d'extrême gauche qui occupera le poste de Premier ministre, puisqu'au sein du nouveau Front populaire, il y a beaucoup d'autres factions de la gauche représentées. Et comme en France, les affaires extérieures sont la prérogative du président de la République, est-ce que ce genre d'argument peut rassurer la communauté juive ? Oui, en effet, je projetais une version très pessimiste de ce à quoi cela pourrait ressembler, l'Assemblée nationale française. Et c'est vrai que, comme je l'ai déjà mentionné, il y a des voix à l'intérieur du nouveau Front populaire plus modéré, tels que Raphaël Glucksmann, député PS, qui est un membre bien connu du Parlement européen, très apprécié par la communauté juive française, et l'une des voix social-démocrates modérées traditionnelles dont nous disposons. Si quelqu'un comme lui arrive au pouvoir et devient Premier ministre, ça pourrait être une excellente nouvelle pour les Français. Et je ne parle même pas d'un point de vue juif, mais d'un point de vue européen. Il est évident que le prochain gouvernement sera de gauche. Pour le moment, il faut être réaliste. Si Emmanuel Macron veut parvenir à un accord de coalition, il va devoir céder. Sa rhétorique de centriste, de ni, ne va plus fonctionner parce que l'échiquier politique de la France s'est déplacé de facto vers la gauche et le prochain Premier ministre sera de toute manière à gauche. Cela dit, j'espère que le futur Premier ministre sera un homme d'État, quelqu'un qui donne la priorité à la politique plutôt qu'au parti et aux politiques, mais je ne suis pas très confiant car c'est là l'un des problèmes de la plupart des hommes politiques. Ils disent qu'ils donnent la priorité à leur parti politique et à leurs propres intérêts par rapport à l'intérêt de toutes les composantes de la société, qu'ils soient de droite ou à gauche. Tant que nous aurons une voix modérée et quelqu'un qui sera pragmatique dans la gestion de la stratégie à long terme de la France, il est évident que les gens ne devraient pas s'inquiéter, mais nous devons d'abord trouver cette voie. Et je pense que ce n'est pas prêt de se produire. Je pense que la France va être confrontée à un défi sans précédent qu'elle n'a pas connu depuis une cinquantaine d'années environ et qui aura certainement un impact durable sur la culture électorale de l'Union européenne. Car n'oublions pas que la France est un État membre de poids dans la mécanique exécutive de l'Union européenne. Comme vous l'avez dit, Emmanuel Macron restera le président de la République française et on le sait, très pro-européen. Quand bien même pensez-vous qu'il y aura un impact de ces élections sur l'avenir de l'Union européenne? C'est une très bonne question. D'un côté, comme vous l'avez dit, le président est un fervent défenseur de l'Union européenne, mais beaucoup, au sein de cette nouvelle coalition de gauche, le sont beaucoup moins, voire carrément très anti-européens. Cela montre aussi qu'il y a un changement politique. Une nouvelle réalité politique se dessine en Europe parce que ce qui s'est passé il y a un mois avec les élections européennes, que beaucoup appellent un réveil européen, peu importe le nom qu'on veut lui donner, mais c'est sans conteste le signe que les préoccupations des Européens sont en train de changer. Aux deux extrêmes de l'échiquier politique, que ce soit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, les votes aujourd'hui indiquent un sentiment commun. L'Union européenne ne fonctionne plus, ne convient plus à l'électorat. Ce message est relayé principalement par les extrêmes, qu'elles soient de gauche ou de droite, qui partagent ce constat, mais ils n'ont pas les mêmes solutions. Ils estiment, et ce n'est pas mon opinion personnelle, mais ils estiment qu'il existe une élite politique qui n'a pas tenu compte des intérêts de leurs pays nationaux. Ils voient un exécutif et dans l'exécutif européen, une technocratie qui impose des lois qui impactent directement sur leurs quotidiens nationaux. Ils estiment que trop de pouvoir est concentré dans ces institutions à Bruxelles et que cela réduit la souveraineté nationale des États membres. Mais ils oublient que c'est aussi la manière dont l'Union européenne a été créée par le biais de traités économiques. Et c'est aussi, à mon sens, ce qui nous permet de dépasser les vieilles divisions et haines tenaces entre les pays européens hérités du passé. Et je pense notamment aux nationalismes virulents qui se sont exprimés dans les années 30 et 40 avec des résultats que l'on garde toujours aujourd'hui en mémoire. Alors, plus que jamais, nous devrions croire en ce beau projet appelé l'Union européenne dans lequel, en fin de compte, nous pouvons être 27 pays différents avec des visions différentes, des langues différentes, mais qui partagent les mêmes valeurs, qui sont les valeurs intrinsèques européennes d'humanisme repris dans la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Et j'espère sincèrement que le nouveau Premier ministre sera aligné avec ces valeurs et souhaitera soutenir une voix française forte et modérée au sein de l'Union européenne.
Eh bien, Juan Caldes Rodriguez, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chargé d'affaires européennes à l'EJA, European Jewish Association, ici à Bruxelles. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup.